ne vais pas parler de ma musique, mais surtout de tout ce que je fais autour de ça depuis le moment que toutes ces technologies que j'utilise en tant que musicien, depuis en fait 2 décennies maintenant, ont été complètement vulgarisées, complètement démocratisées. Ce qui veut dire que les moyens qu'on avait, en fait les moyens qu'on cherchait à avoir pour faire de la musique sur ordinateur et d'autres choses étaient vraiment spécialisées à l'époque, mais maintenant aujourd'hui devient possible par un public beaucoup plus large. Et donc ça change pour moi complètement le contexte dans lequel on pratique notre pratique. Mais enfin, finalement, bon, moi je continue à jouer les concerts, ça m'a pas changé le style musical que je joue, qui est toujours complètement expérimental et noisy et tout. Mais ça peut changer les contextes dans lesquels la musique soit diffusée ou bien partagée, dans le sens de partage des, non seulement des moyens, mais la connaissance, les techniques et les outils, en fait. Donc c'est autour de tout ça, en fait, les différents contextes sociaux et sociétal, si c'est un mot en français, dans lequel tout ça peut se faire. Donc en fait, j'ai passé beaucoup de temps à Paris, j'ai fait des recherches à l'IRCAM, j'ai toujours mon atelier ici à Montreuil, que je partage d'ailleurs avec l'artiste Evan Roth, qui est là. Donc, qui avait un groupe qui s'appelait Guerrilla Research Labs. Donc, on commence à se situer entre la musique informatique de l'IRCAM, le tag numérique de Guerrilla Research Labs, de la maison populaire d'être dans cette ville, mais de travailler en Angleterre, où j'avais la possibilité, au sein d'une université, d'une grande université, de mettre en place un laboratoire de recherche qui est un peu un Media Lab. Donc, juste pour. Et on va en parler de ce que ça veut dire un Media Lab, mais en gros, Culture Lab, je ne suis pas le directeur fondateur, ça a été créé en 2006, moi je travaille là-bas depuis 2007, mais c'est un grand laboratoire de recherche, on a à peu près une centaine de personnes. Je suis directeur du labo aujourd'hui, mais j'ai été engagé pour créer un programme de recherche et un programme d'université post-diplôme autour des nouveaux médias. Voilà. Oui, donc on a tout ce qui est studio audio, studio de montage vidéo, tout ce qu'on imagine dans un Media Lab, et surtout tout ce qui est un peu en ce moment à la mode ou bien dans l'air du temps, tout ce qu'on appelle le Fab Lab, les laboratoires de prototypage numérique, dans lequel on a des imprimantes 3D, laser cutter, comment dire en français.
Des systèmes de découpe.
Oui, ouais, de découpe à laser, ouais. Et tout. Donc, ce sont des machines avec lesquelles on peut créer des objets en 3D, des objets de quotidien, sur un modèle 3D qui est conçu sur l'écran d'ordinateur. Ouais. Si on imagine aujourd'hui que l'ordinateur devient un peu plus abordable, là où il y a 20 ans, on était peu à faire de l'art avec ordinateur, toujours. Aujourd'hui, c'est un outil de quotidien. Le Fab Lab, aujourd'hui, ce sont des machines qui sont encore chères. Mais on va voir qu'on commence à avoir des versions, ce qu'on appelle open source. Et Culture Lab, en étant un grand laboratoire, on a des moyens de mettre en place les grands studios, d'avoir des outils haut de gamme, mais en même temps, ce qui nous intéresse, et on va voir la logique, d'ouvrir, de fonctionner sous un esprit d'ouverture et d'accessibilité. Donc, même si on a des studios très avancés, on a la notion de open access. Les portes sont ouvertes, joueurs ouvrables, bon, ça paraît logique, mais ce n'était pas le cas avant. Les laboratoires comme ça, souvent, c'est fermé. Il faut avoir accès, il faut avoir... Et bon, il y a évidemment une question de sécurité qui se pose. Mais quand même, les deux premières années de Culture Lab, il y avait un problème. Comme les portes étaient fermées, il fallait avoir un badge pour entrer. Il n'y a personne dans la ville de Newcastle qui savait ce que c'était. C'est peut-être une anecdote, mais quand même, c'est quelque chose de très, très important. C'était trop mystérieux, qui rendait, en fait, non seulement le lieu mystérieux, mais aussi les technologies mystérieuses. Donc, le simple fait d'ouvrir les portes et de se lancer dans les programmes de diffusion, de dissémination publique, ont changé un peu non seulement de l'image du lieu, mais l'esprit. Si on veut. Donc avec ça, on s'intéresse à tout le processus de création, qu'on essaie quand même de mettre en place un lieu qui est international, qui s'inscrit dans tout ce qui est art et nouveaux médias. En même temps, c'est au sein d'une université. Et c'est un lieu à l'université où des gens de plusieurs disciplines peuvent se réunir. Donc, en anglais, c'est tout ce qu'on appelle interdisciplinaire. Et puis, quatrième point, autant qu'on est académique et universitaire, on a quand même un certain responsabilité d'être acteur régional dans la ville de Newcastle et dans le nord-est d'Angleterre, qui est une région très industrielle, post-industrielle, très populaire, où dans l'époque Thatcher, où les mines en Angleterre étaient fermées. Donc c'est une région qui a vécu beaucoup, beaucoup de changements socio-économiques. Et donc, et on va voir quelques diapos plus tard, nous avons une vision à Culture Lab qu'on a un travail à faire en relation avec la ville et la région. C'est non seulement le laboratoire, mais ça fait partie de la vision de l'université de Newcastle. Nous avons une notion de knowledge transfer est un mode de, pas exactement de recherche, c'est quelque part entre la recherche et la pratique. C'est le transfert de connaissances, si on traduit. Et c'est là où on cherche identifier des connaissances très spécialisées dans un laboratoire de recherche, comme ça, et de voir comment, où est-ce que ça peut être utile dans le monde réel, dans le monde extérieur. Et de créer des partenariats, soit avec l'univers culturel ou avec les villes. Mais étant université, on enseigne. Donc on a des étudiants, on a créé des programmes de master et des programmes post-diplôme, donc tout ce qui est les nouveaux médias, la théorie et philosophie de la technologie, tout ce qui est film, vidéo, architecture, etc. Et puis outreach, c'est le mot en anglais pour tout ce qui est cette notion d'être socialement engagé, comme on dit. Donc c'est là où, avec un bâtiment comme Culture Lab, on a la possibilité à la fois d'être laboratoire, mais aussi d'être un lieu culturel, d'organiser les événements publics. Donc tout ça, c'est autour d'une notion des communautés, la possibilité que la technologie n'est pas quelque chose qui est fourni, qui est fait ailleurs, en Californie ou je sais pas où, mais devient de plus en plus accessible pour les gens qui ne sont pas spécialisés, de commencer à bricoler, à fabriquer en matériel électronique, les différents projets. Donc, ça peut être des projets qui font tout simplement clignoter des LED jusqu'à découper. Il y a des trucs incroyables. Il y a quelqu'un qui a découpé de l'acier avec un concombre en flamme. Et, Et ça, c'est un mec de Newcastle. En fait, maintenant, on va voir qu'est-ce que c'est un Media Lab. Est-ce que ça vous dit quelque chose, la notion de Media Lab? Donc, dans mon univers, les deux mots Media Lab, c'est en fait, si on a créé Culture Lab pour faire ce genre de choses, ce sont des laboratoires où on travaille avec les technologies numériques. Il y a une notion de création, mais pas que création artistique, mais recherche. C'est une définition finalement qui est, dans mon univers, si on dit Media Lab, les gens ils savent à peu près de quoi on parle, mais en même temps c'est une notion qui est très floue. C'est un mot, mais avec plusieurs définitions. Il y a une histoire, il y a la notion que là où auparavant on parlait de la technologie comme quelque chose du futur, de l'avenir, aujourd'hui, si on a nos téléphones mobiles, Internet à la maison et tout ça, l'avenir est arrivé. Donc ça change un peu le contexte. On parle des notions de recherche interdisciplinaire, de la sustainability, en français c'est le développement durable, mais dans en plusieurs sens. Développement durable pour l'écologie, mais aussi pour l'économie, mais en même temps pour nous et nos idées et les actions. Et comment tout ça c'est lié aux notions de la créativité, pas forcément la création artistique, mais où se situe la créativité dans tout ça. Donc l'histoire, c'est que c'est pas quelque chose qu'on a inventé il y a un an ou deux. Il y a des labos de ce genre, une histoire qui remonte de presque un siècle. Et c'était surtout dans les grands labos industriels que ça a démarré. Donc Bell Labs, 1925. Bell Labs, c'est le télécom américain. Mais c'est dans ces grands laboratoires-là où est inventé les composants électroniques comme le transistor, la notion de communication satellite, tout ça. Donc, les grands laboratoires d'ingénierie. Et si on avance très rapidement en 1969, donc juste un an après mai 68, on a fondé la société Xerox. Donc la société qui font des photocopieuses. On crée un laboratoire qui s'appelle PARC, Palo Alto Research Center, à Palo Alto en Californie, juste à deux pas de l'université de Stanford. Et c'est là où est inventé le souris d'ordinateur. Okay. Donc c'est pour ça que je mets ça là. En fait, le souris, on commence à l'utiliser dans les produits commerciaux dans les années 80-90. C'est quelque chose qui a été inventé maintenant, il y a 40 ans. Entre-temps, le grand laboratoire de référence dans ce domaine est dans une université américaine qui s'appelle MIT, donc Massachusetts Institute of Technology, qui a créé un laboratoire qui s'appelle le Media Lab. Donc, si on parle de Media Lab, souvent, c'est là où les gens... c'est le labo de référence fondé il y a maintenant 25 ans. Entre-temps, il y a eu d'autres labos, et dans notre milieu de art et nouvelles technologies, il y a le laboratoire Future Lab de Ars Electronica. Ars Electronica en étant le grand festival de art et nouveaux médias qui existe depuis 20 ans maintenant. Depuis quelques années, des laboratoires qui sont beaucoup plus ce qu'on appelle en anglais grassroots, mais c'est le même, émergents, des initiatives citoyennes où s'inscrivent toutes ces mouvances de DIY, de do-it-yourself. Le fait que la technologie devient plus accessible veut dire qu'il y a des petits laboratoires qui naissent dans des villes comme Budapest, Media Lab Prado à Madrid, et qui sont beaucoup sur le open source, le logiciel libre et l'accès. Donc on voit dans un siècle de laboratoires une évolution dans les laboratoires très grand industriel vers les laboratoires universitaires. Et les labos à un nouveau média, vers aujourd'hui les labos, ce que j'appelle labos citoyens. Donc, quand on parle de Media Lab, on a en fait plusieurs sortes de Media Lab. Ça peut être les laboratoires industriels, les laboratoires universitaires comme Culture Lab, ou les laboratoires citoyens. Et en fait, peut-être la Maison Populaire, quelque part, est un laboratoire citoyen. Et si on ne connaît pas MIT Media Lab, mais on dit que c'est une référence, c'est intéressant d'aller sur le site et regarder la mission et l'histoire. At the Media Lab, the future is lived, not imagined. L'avenir est vécu, pas imaginé. Donc, tout de suite, on imagine une certaine réalité autour de l'avenir. Mais on parle toujours de l'avenir, et c'est ça ce qui est presque dépassé aujourd'hui dans tout ça. C'est très sexy de parler des technologies numériques, l'avenir et tout ça, mais tout ça, pour moi, est arrivé. Donc la question pour moi en créant Culture Lab, c'est, bon, 25 ans plus tard, est-ce qu'on crée un laboratoire dans le nord-est d'Angleterre qui est obsédé par le futur, comme le futur est déjà arrivé? Donc c'était ça, en fait, ce qui était en jeu en créant Culture Lab. J'avais le Kitchen Budapest comme exemple. Si on regarde dans les research fields, les domaines de recherche, what happens to the net once it meets the urban space? Qu'est-ce qui devient un réseau une fois qu'il rencontre l'espace urbain? How does private space relate to the saturating wireless networks? Comment est-ce que l'espace privé entre en relation avec les réseaux sans fil complètement saturés? Donc voilà les questions qui se posent. Donc avec tout ça, l'idée c'est que oui, l'avenir est arrivé, le futur est arrivé, ce qui veut dire qu'il y a un vrai changement de focus. Là où auparavant on pensait que à la technologie, aujourd'hui on réfléchit beaucoup plus à l'impact dans la société de ces technologies. Et donc ça c'est vraiment le cœur de notre débat. Donc après, avec la ville, il y a des différents partenariats qu'on peut mettre en place. Donc Newcastle est une ville dans le nord-est d'Angleterre. Il y a un certain historique et tout, mais c'est un historique qui est complètement qui est quand même compliqué parce qu'il y avait, c'est une histoire où il y a eu des grandes manifestations dans les années 90 avec la fermeture des usines. Et juste il y a quelques mois, cette année, on a vu en Angleterre les riots qui ont eu lieu à cause des problèmes socio-économiques. Mais Newcastle a dit non aux riots, juste dans cette dernière vague de manifs, au mois d'août. Et pourquoi? Parce que c'était intéressant. C'est une ville très, très populaire. Quand j'ai vu ça exploser à Londres, j'imaginais, est-ce que ça va brûler? C'est en fait, Newcastle, étrangement, il n'y a rien qui s'est passé. Et en fait, il y a des pages comme ça, on dit non, on ne va pas faire la riot. Non, la question se pose pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé entre 91 et aujourd'hui? Et on peut dire que il y a peut-être un réussite dans ce qu'on appelle la régénération économique de la ville. Newcastle devient un site de ce qu'on appelle le culture-led regeneration. Ce qui peut dire qu'on peut déclencher et soutenir le bien-être d'une ville et ses citoyens, de régénérer une ville qui était très pauvre et en situation très précaire, avec un investissement dans la culture. Donc Newcastle est une ville qui devient un peu un exemple dans tout ça. Donc c'est quelque chose qui a été déclenché déjà il y a 20 ans, 15, 20 ans d'années. et l'université de Newcastle se situe dans tout ça, et Culture Lab devient une fenêtre ou un lieu où, où ces activités ou bien cet esprit de lien entre la culture, l'université et la ville peut se faire. Maintenant, on peut parler comme ça, on est socialement engagé, tout est bien, voilà, mais il faut pouvoir continuer, il faut financer ces activités et on se retrouve dans une situation avec la situation globale économique de plus en plus difficile, parfois une situation précaire. Et donc en fait, la stratégie devient comment on se situe, et c'est là où on a comment on se situe pour survivre. On va voir comment moi je situe tout ça dans les projets de Culture Lab. Donc ça c'est un grand projet financé par le ministère de la Recherche britannique. Eux, ils avaient un programme autour de l'économie numérique, la digital economy. Et nous, on a répondu avec un grand projet, une demande de subvention qui s'appelle SIDE, qui est donc l'inclusion sociale dans une économie numérique. L'avenir est arrivé. En Angleterre, on parle beaucoup des digital natives, donc la génération née numérique. Okay. Là où la technologie ne pose pas de problème, en fait, c'est pas accessibilité à la technologie, mais plus une question de qu'est-ce qu'on fait avec ces technologies. Juste le fait qu'un jeune sait très bien comment piloter un ordinateur, un téléphone mobile, ne veut pas dire qu'il sait forcément quoi faire d'intéressant avec. Donc il y a une notion de participation qui est très forte, une notion de partenariat avec les différents organismes. Le Tyneside Cinema, c'est un cinéma en plein centre-ville de Newcastle. Le Regional Work Unit, les associations qui aident les jeunes à trouver du travail, de se former. Donc on crée des partenariats avec eux, on invite donc les groupes de Regional Youth Work Unit à entrer à Culture Lab, de concevoir des projets ensemble dans une notion de ce qu'on appelle la coproduction de connaissances, co-production of knowledge, the co-design. Donc, co de collaboration, co de communication, donc co de co-production et co-design. Donc, tout ça veut dire que dans la notion de participation, qu'on a des méthodes de design participatif qui peut, ce qu'on appelle en anglais, deployed in the wild. In the wild, donc, veut dire dans le monde réel. Et dans tout ce qui est recherche, nous, on commence à voir, en fait, on observe comment ça fonctionne, si ça marche, ça ou pas. Nous avons, nous, les chercheurs, il y a les jeunes avec qui on a travaillé, les end-users, mais il y a aussi les facilitateurs. Si on a fait des partenariats avec les différentes associations, les différents organismes, chaque stakeholder, chaque acteur, a des intérêts différents, et parfois ces intérêts convergent et parfois ça diverge. Et de négocier différences d'intérêts devient en fait matière de recherche dans ce domaine. Et c'est là où on fait appel à des différentes littératures ou à des publications dans différents univers de domaines de recherche, ici assez politique, un texte venant des années 60, ce qu'on appelle the ladder of citizen participation, l'échelle de participation citoyenne. Et c'était une façon, dans un langage très années 60, de voir les différents niveaux de participation. Et nous avons utilisé ça comme modèle pour concevoir nos activités et aussi après de formuler, d'expliquer ce qu'on faisait. Donc si on commence en bas de l'échelle, on parle de tous les actes qui n'invitent pas de participation, de non-participation. Et donc échelle 1, on peut dire que la non-participation, c'est une manipulation totale. Nous sommes manipulés par le système. Et le rang 2, que ça devient thérapeutique. On a des formes de participation qui ne sont pas de vraies participations, de token, participation symbolique, où nous sommes informés, consultation, on demande conseil, il y a une discussion, application d'être soulagé, jusqu'au point qu'on entre en partenariat, qu'on a une délégation de pouvoir, et enfin un vrai contrôle citoyen. Et c'est là où c'est très activiste, années 60, que ce n'est qu'à la fin qu'on a un vrai citizen power. C'est intéressant de voir comme ça, d'imaginer que les politiques ont conçu la participation dans un détail comme ça. Ce n'est pas qu'il y a une participation, il n'y a pas participation, il y a plusieurs ordres de participation. Dans l'art, il y a la notion de participation aussi. Donc il y a deux super livres. À gauche, Grant Kester qui a écrit un livre, Conversation Pieces. C'est tout ce qui est l'art contemporain, les projets d'art contemporain qui a à voir avec les communautés et qui entrent en communication. À gauche, et puis à droite, un livre qui s'appelle tout simplement Participation, Documents in Contemporary Art, les documents d'art contemporain autour de la participation, c'est Claire Bishop. Qui reprend les différents projets d'après-guerre, notamment les années 60 et 70, les happenings, etc., qui ont changé un point de vue vers l'acte artistique d'une exposition dans un musée ou galerie, vers un processus beaucoup plus ouvert dans la ville, dans les actes qui dans les happenings ou les actes parfois révolutionnaires, etc., qu'on peut voir une histoire de l'art contemporain de ce point de vue de participation. Et quand on voit donc, des références politiques comme ça, des références à l'art contemporain comme ça, ça nous donne une autre façon de lire. Pour revenir à ce texte de Great Art for Everyone, de Arts Council, c'est donc une façon de répondre et de ne pas être complètement instrumentalisé par le message d'Arts Council. Donc c'est une façon de dire, OK, voilà comment on crée une stratégie autour de ça, d'identifier la profondeur qu'il y a dans l'histoire de l'art, pour répondre à les enjeux actuels qui sont mis en place par le gouvernement ou ceux qui financent la culture. Et ce n'est pas tout. On peut commencer à imaginer, et c'est là où je commence à utiliser le mot créativité, indépendamment de la création artistique, de dire qu'on peut avoir des actes dans la vie du quotidien, qui sont créatifs mais qui n'ont pas besoin d'être artistiques. Et il faut savoir qu'en fait c'est dans la pensée française que ça a été beaucoup développé, Jean-Michel Desserteau, et on a l'invention du quotidien, l'art de faire. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce qu'on fait, on fait appel pas mal à Desserteau et l'activisme quelque part là-dedans pour revenir à ces questions de créativité du quotidien. Donc pour Desserteau, ça voulait dire que de prendre conscience des actes qu'on fait de tous les jours. Il compare alors les consommateurs à des Brassonnier.
Braconnier.
Braconnier, oui. C'est le terme au travers des mailles, ils ont imposé, voilà. Donc les propriétaires élaborent les stratégies, les actions de contrôle de l'espace pour piéger les dominés qui eux mènent les actes de résistance, les appels débarrassés, qui sont des micro-libertés face au pouvoir. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'il y a pas mal de la pensée des années 60, etc. Et bon, il y a les situationnistes et tout. Mais imaginez, ils n'avaient pas les moyens qu'on a aujourd'hui. De l'Internet, de publier de l'information, de communication, d'aller chercher. Avant, il fallait aller à la bibliothèque, chercher le livre de Certo, de voir, d'avoir accès à une université et tout ça. Aujourd'hui, on peut prendre ces idées, on a la possibilité. Donc l'argument, c'est que comme la technologie et les systèmes d'information sont démocratisés, on a la possibilité, en fait, d'action qui devient une façon de réflexion en fait autour de ces technologies, une réappropriation, un usage qui n'est peut-être pas conçu par les fabricants. Donc si on a des technologies GPS, bon, c'est bien pour naviguer, de ne pas se perdre dans la rue, mais si on prend des concepts des situationnistes qui n'avaient pas de GPS à l'époque, mais qui avaient pensé des dérives et tout ça, d'appliquer ça. Donc ça devient vraiment intéressant. Donc, juste pour finir, tout ça, c'est pas nouveau, parce que dans les années 60, ils avaient déjà pensé à ça. Ils n'avaient peut-être pas les moyens technologiques qu'on a aujourd'hui, mais bon, on peut quand même penser au quotidien. De certains avaient déjà écrit ça. Sur ce sujet, et aujourd'hui, oui, ce qui m'intéresse dans un lieu comme Culture Lab, dans les projets comme ça, c'est d'appliquer ces notions avec les moyens qu'on a aujourd'hui. Et on arrive à une littérature, des livres de Sherry Turkle. Je ne sais pas si c'est traduit en anglais. C'est un prof à MIT qui a un point de vue critique par rapport à la technologie, d'essayer d'imaginer l'impact vraiment humain et social de qu'est-ce que ça veut dire de ces technologies. En fait, déjà dans 25 ans de travaux, on voit une évolution dans sa pensée. En 1984, elle écrit « The Second Self », le deuxième soi, l'ordinateur et l'esprit humain. Okay? Donc, on pensait autour de la technologie comme quelque chose qui change non seulement ce qu'on fait, mais la façon qu'on pense. Puis, plus récemment, en 2007, les objets évocateurs, les choses avec lesquelles on pense, donc les objets technologiques deviennent émotionnels, ou les compagnons intellectuels qui ancre nos mémoires, qui soutient les relations et qui provoque des nouvelles idées. Et puis, le dernier livre, juste cette année, Seul, ensemble. Pourquoi on attend plus à la technologie qu'on attend de chacun. Oui. Donc, c'est là, si on imagine, quels sont les contextes pour la créativité. Donc, avec toutes ces activités, si on travaille avec les jeunes dans la ville de Newcastle, ce ne sont pas des stages d'art où on essaie de faire des artistes des jeunes, mais on essaie de s'en servir des activités créatives pour transmettre le message que ces jeunes-là peuvent approprier, pour réapproprier contrôle de leur propre futur. Et c'est là où en anglais on arrive aux notions de empower, qui a à voir avec, pas tellement avec le pouvoir, mais de donner la possibilité.
Plus que le pouvoir, le déclencher, c'est le point de déclenchement, quoi.
Oui.
L'impulsion.
Oui. Et de voir comment la technologie numérique donc, peut faciliter ce processus. Donc, dans ce sens-là, une vue vers la technologie, non comme un but en soi, mais un facilitateur de d'autres processus, donc social. Oui.